Bonsoir Mathilde Panot.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes députée du Val-de-Marne, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Tout simplement, est-ce que c'était la fin du mouvement ce soir ?
Non, je ne crois pas que c'était la fin. D'abord parce que je ne vais apprendre à personne ici dans l'étude de l'IFOP qui est sortie la semaine dernière, vous avez vu un Français sur trois qui se retrouve avec moins de 100 euros de reste à vivre le 10 du mois. Mmh. Et les chiffres du Crédoc qui, la semaine encore passée, étaient tout simplement effrayants, puisque un Français sur six dans notre pays se prive d'un repas par jour et que 8 Français sur 10 disent qu'ils se serrent la ceinture. Donc c'est dur de prendre une journée sur son travail, de pouvoir aller manifester, mais il faut quand même se rendre compte de plusieurs choses. Un, nous sommes à plus de cinq mois de mobilisation. Et depuis la première semaine de mobilisation, on nous explique toutes les semaines que c'est la fin du mouvement. Première des choses.
Il y a quand même des éléments factuels ce soir, notamment en termes de chiffres. Et puis, si vous le voulez bien, on va l'écouter tout de suite, comme ça, ce sera fait.
Allez-y.
Laurent Berger, le patron de la CFDT, tout à l'heure dans le cortège.
C'est la dernière, évidemment, sur la question des retraites dans ce format-là. Enfin, je veux dire, on va pas se raconter d'histoire. On a les chiffres de la mobilisation, ça reste encore important. Maintenant, il va falloir qu'on cultive cette mobilisation qui a été la nôtre pour travailler sur les salaires, le pouvoir d'achat, les conditions de travail, l'évolution du travail, le dialogue social. Et on continuera de porter une contestation forte sur les retraites, mais ça prendra pas les mêmes formes, ça me paraît évident.
Même Laurent Berger le dit clairement, c'est la dernière, c'était la dernière aujourd'hui.
En tout cas, c'est ce que dit Laurent Berger, ce n'est pas ce que disent d'autres syndicats. Alors Laurent Berger s'exprime comme responsable syndical. Moi, je vous le dis, comme présidente d'un groupe parlementaire, nous ne lâcherons pas l'affaire sur la question des retraites. Tout simplement parce qu'il n'est pas question de tourner la page de nos vies et que c'est un combat que nous poursuivons, même si vous prenez dans l'histoire, depuis le 19e siècle, nous luttons pour la question du droit au repos, du droit d'avoir une retraite en bonne santé. Et donc, c'est un combat que nous ne lâcherons pas.
Mais Madame Panot, à court terme, reconnaissez, parce que bien sûr, vous continuerez à mener le combat pour la retraite à 60 ans en l'espèce, ça peut être en 2027, mais à court terme, vous avez perdu le bras de fer qui vous opposait au gouvernement, dans la mesure où la réforme rentrera en vigueur le 1er septembre.
Alors d'abord, dire que non, nous n'avons pas perdu. Nous avons même gagné idéologiquement sur beaucoup des aspects. Quand vous voyez 67% des Français, quand vous voyez 67% des Français qui souhaitent que ce jeudi à l'Assemblée nationale, il y ait un vote sur notre proposition de loi, je dis notre, parce qu'elle est aussi co-signée par la NUPES, dans le cadre de la niche Liotte, je pense que nous n'avons pas perdu et que la majorité sociale de ce pays souhaite toujours que ce gouvernement retire cette réforme des retraites.
Mais la réforme va rentrer en vigueur
le 1er septembre. Eh bien, nous verrons ce qui va se passer jeudi, parce que si la présidente de l'Assemblée nationale ne cède pas aux pressions de l'exécutif...
Elle cédera, Mathilde Panot.
Oui, mais peut-être, mais à ce moment-là, on sera dans un précédent qui est terrible. Ça veut dire que vous bouchez toutes les voies démocratiques.
Mathilde Panot, pour
on
ceux
va
qui nous regardent, je vais réexpliquer simplement les choses. Jeudi, il y a peut-être un vote à l'Assemblée sur une proposition du groupe Liotte qui enterrerait la réforme des retraites, qui enterrerait le passage à 64 ans. Sauf que la présidente de l'Assemblée a la possibilité d'empêcher ce vote en disant non, ce texte-là alourdirait le budget de l'État, donc il n'est pas recevable, donc je le mets de côté, il n'y aura pas de vote. On attend cette décision, peut-être dans les minutes, peut-être dans les heures qui viennent, Mathilde Panot. Donc cette cartouche-là, vous ne l'aurez pas non plus.
Alors, je vais reprendre quand même depuis le début, parce qu'il ne faut pas s'habituer à certaines choses. Ça fait plus de 5 mois que des millions de personnes manifestent dans ce pays. Il existe normalement, dans notre République, une démocratie sociale qui fait que ce n'est pas on vote une fois tous les 5 ans et après c'est terminé et on attend de devoir revoter 5 ans après. Première des choses. Ils n'ont pas écouté cela, évidemment. L'intersyndicale dans son unité, qui depuis plus de 5 mois continue sur la question du retrait de la réforme des retraites. L'Assemblée nationale, c'est la première ministre qui le dit à la télé, elle dit le compte n'y était pas sur l'utilisation du 49.3 et donc que l'Assemblée nationale allait voter contre la retraite à 64 ans. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils manœuvrent autant là pour la niche de jeudi ? Ils manœuvrent parce qu'ils savent qu'ils vont perdre le vote. Là, je sors de l'Assemblée nationale. Nous sommes mardi. Ils ont déjà perdu 3 votes. 2 lundi et 1 mardi sur des lois de règlement budgétaire sur lesquelles l'Assemblée nationale s'est prononcée contre ces textes. Donc la Macronie doit apprendre à perdre. Et je vais vous dire, peut-être que effectivement la présidente de l'Assemblée nationale va dire j'active l'article 40 et donc j'interdis la discussion sur l'abrogation du départ de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Peut-être. Mais nous avons proposé beaucoup de formulations dont nous savons, pour plusieurs de ces formulations, qu'elles sont recevables.
Mais attendez,
donc soit elles s'assoient complètement sur toute la jurisprudence, parce que c'est du jamais vu dans la Ve
République.
Mais Mathilde Panot, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, est demain l'invitée d'Apolline de Malherbe sur BFM TV et RMC à 8h30. Qu'est-ce que vous lui dites ce soir, Yael Braun-Pivet ?
Je lui dis que je l'alerte solennellement, que je lui rappelle qu'elle est la présidente de l'Assemblée nationale, qu'elle n'est pas la présidente d'un parti ou d'un mouvement, et qu'elle doit être à la hauteur de ses fonctions. Et ses fonctions, c'est d'être la garante de la séparation des pouvoirs dans ce pays. Je vous ai ramené quand même une déclaration que j'espère la presse lui redira si elle active cet article. Il est temps que la présidente défende son institution. J'ai un rôle à jouer. L'Assemblée doit jouer pleinement son rôle. Mon ambition est que l'Assemblée retrouve sa place dans notre vie démocratique. Je souhaite que l'Assemblée comble le fossé entre les Français et les politiques. Si elle utilise un article qui n'a jamais été utilisé dans la Ve République sur cette raison-là, eh bien, Madame Yael Braun-Pivet est une hypocrite.
Ces mots-là, ils sont de Yael Braun-Pivet ?
Il y a eu un vote.
C'est des mots de Yael Braun-Pivet du 20 octobre 2022, je vous donne la date.
Il y a eu un vote en commission des affaires sociales, en l'occurrence.
Oui, alors je vais vous expliquer le vote.
Non, parce qu'on ne va pas rentrer dans ces détails-là.
Et par ailleurs, est-ce que vous êtes favorable au dépôt d'une motion de censure si jamais l'article 40 est activé ? Est-ce que vous en avez parlé avec Kyot ? Est-ce que vous êtes, vous, favorable, puisque vous dites que le combat doit continuer à aller jusqu'au bout et à poursuivre, en déposant une motion de censure ?
Oui, évidemment. Évidemment, regardez, vous avez, dans une Assemblée nationale, déjà un gouvernement qui ne respecte pas la séparation des pouvoirs, ce qui est quand même hallucinant, avec des pressions directes qui sont faites sur des députés, jusque des députés qu'on a menacés...
Ça a toujours
sur des,
hein,
non, sur non, des maternités, c'est... excusez-moi, mais non. Les gens comprennent quand même. On menace des députés sur des questions de maternité dans leur circonscription s'ils continuent avec la loi Liot. Enfin, il faut imaginer à quel point on franchit des seuils.
On n'est pas dans un régime autoritaire, nous vous en avez fait en même temps démocratie.
Enfin,
allez voir ce que c'est
vous
un régime autoritaire.
Vous avez déjà vu à la fois l'utilisation du 49.3, du 47.1, du 44.2 et du 44.3 ensemble.
Mais précisément, Mathilde Panot, vous venez de lister précisément des articles de notre Constitution.
C'est juridique.
Oui, et c'est la première fois qu'ils sont utilisés
alors,
ensemble.
Ils sont
c'est la première fois qu'ils sont utilisés.
Et ils sont légaux.
Il y a des questions de légalité, il y a des questions de légitimité. Oui, c'est ça qui s'est posé. Et je vais vous dire, ils peuvent utiliser là un subterfuge pour peut-être faire en sorte qu'on ne discute pas cette loi jeudi. Parce que si nous la discutons, nous la gagnerons. Mais ils ne pourront pas utiliser ce subterfuge 100 000 fois. Et je vais vous dire, nous le remettrons dans notre niche parlementaire de manière différente pour que le subterfuge et la manœuvre qu'ils utilisent maintenant, ils ne puissent pas la refaire. Et donc, nous le remettrons sur la table autant de fois qu'il le faut.
Vous avez empêché qu'il y ait un vote sur l'article 7 alors que les syndicats vous le réclamaient. Aujourd'hui, vous réclamez un vote.
Ok, je vais vous expliquer.
Votre cohérence est vraiment à géométrie variable.
Oui, je vais vous expliquer notre cohérence. Notre cohérence, c'est que le gouvernement avait utilisé l'article 47.1. Ouais. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que vous avez 10 jours pour discuter d'un des textes les plus importants du quinquennat qui va voler 2 ans de vie à l'ensemble des Français. Vous pouvez avoir un petit air méprisant, mais je vous explique la stratégie qu'on a utilisée comme groupe parlementaire.
Obstruction.
Alors, Mathilde
Panot. Non, en fait, c'est eux qui font de l'obstruction lorsqu'il y a seulement 10 jours de débat. Lorsqu'on utilise un 49.3, ce n'est pas nous qui avons utilisé le 49.3. Ce n'est pas nous qui avons choisi 10 jours de débat.
Vous vous rappelez Jean-Luc Mélenchon qui disait « je ne veux pas qu'il y ait un vote » et il vous expliquait.
Oui, eh bien nous sommes fiers d'avoir fait en sorte de ne pas rentrer dans le cadre du gouvernement et de laisser au mouvement social le temps de s'organiser.
Sur le fond, on voit bien que l'article 40, il argue que voilà, si vous allez créer une charge supplémentaire sur les dépenses publiques, là vous nous dites que vous avez préparé plusieurs manières de présenter ce texte, que vous le représenterez si jamais il est balayé pour ce jeudi. Quoi qu'il arrive, même si vous le représentez, cette charge sur les finances publiques, elle existera toujours. Donc le gouvernement sera en légitimité de le réactiver à nouveau. Est-ce qu'on n'est pas là dans un petit mécanisme, en fait, publicitaire, pardon pour cette expression, parce que sur le fond, vous ne pouvez pas effectivement proposer autre chose qui ne grèverait pas les finances publiques.
Alors non, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que sur la question de la recevabilité, il faut comprendre que la loi qui a été déposée pour jeudi, elle a déjà été jugée recevable 2 fois. Mmh. Une première fois par le bureau de l'Assemblée nationale, présidé par Yael Braun-Pivet. Donc elle revient sur ce qu'elle a fait avant, mais une première fois. Et une deuxième fois dans le suivi de toutes les jurisprudences qui se sont faites des précédents présidents de la Commission des Finances par Éric Coquerel, qui est le président de la Commission des Finances.
Mais Madame Panot, juste, on peut faire autant de mécanique parlementaire.
Ça sera jugé recevable de la même manière.
Madame Panot, on peut faire autant de mécanique parlementaire que l'on veut. Le sujet, c'est il y a un certain nombre d'arguments, effectivement, considérés que le gouvernement a accumulé des procédures qui sont légal, constitutionnel, mais qui parfois crée des précédents qui ne sont pas usuels. C'est vrai.
Et qui sont rejetés par les Français.
Et qui sont rejetés par les Français, vous avez raison. Mais principe de réalité, vous parlez à des sympathisants de la France insoumise, des Français qui sont majoritairement opposés à cette réforme des retraites, en leur disant « on n'a pas encore perdu ». Est-ce que vous ne leur vendez pas des illusions ? Encore une fois, je ne parle pas de la légitimité ou de l'utilité, je parle de ce qui va se passer. Jeudi, Yaël Braun-Pivet va écarter cet amendement. Il n'y aura pas de débat. Nous sommes le 6 juin, donc le 1er septembre, la réforme des retraites va rentrer en vigueur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'honnêteté à dire, comme d'autres, si en 2027 on est élu, on reviendra sur la réforme. Mais là, en l'état, c'est plié.
Eh bien non.
De parler avec plus de lucidité de la situation, comme le fait aussi Laurent Berger.
Mais non, parce que déjà, moi je ne me résous pas, comme vous êtes en train de le faire, à expliquer que l'histoire serait celle d'une présidente de l'Assemblée qui passerait sur toutes les jurisprudences que nous avons eues dans cette Assemblée.
Vous savez très bien que ça va se passer comme ça.
Non, parce qu'il n'y a pas qu'un seul amendement, je le redis, il n'y a pas qu'un seul amendement. Et nous avons des amendements dont nous sommes sûrs qu'ils passent les fourches de l'article 40. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, vous vous rendez compte de ce qu'ils sont obligés d'utiliser comme outil antidémocratique pour pouvoir faire en sorte que cette loi ne soit pas abrogée. Donc, je le dis, l'heure viendra où nous arriverons à abroger cette réforme.
Oui, mais Madame Panot, le problème aussi dans l'argument
que vous
utilisez...
Le plus tôt serait le mieux parce que cela bloque l'ensemble du pays.
Le problème, c'est... Attendez, juste d'un mot. Le problème, quand vous dites outil antidémocratique, et là, je pense aussi qu'il y a un sujet de pédagogie vis-à-vis des Français. Ça fait 3 mois que la France insoumise, dans ce débat sur la réforme des retraites, matin, midi et soir, crie au déni de démocratie, à la dérive autoritaire. Là, on entend des comparaisons avec Viktor Orban, carrément le régime hongrois. Ça veut dire que quand pendant ça veut dire que quand pendant 3 mois vous utilisez ce type d'argument-là, quand effectivement il y a un sujet sur la façon dont le gouvernement se comporte, ben là vous êtes moins audible parce qu'en fait vous utilisez tellement en permanence cet argument de la dérive autoritaire que peut-être que quand il y a un sujet, ben là c'est moins audible parce qu'en fait on est tellement habitué à vous entendre dire en permanence que le gouvernement n'est plus démocratique, ben peut-être que les Français n'y croient plus.
Mais ça ne vous pose pas de question, vous, que la France soit régulièrement pointée du doigt par des organisations internationales? Ça ne vous pose pas question.
On n'est plus en démocratie.
Non, mais c'est une question.
C'est une question que je vous pose.
J'espère qu'on va rester en démocratie.
Demandez aux parlementaires de dictature.
Mais c'est vraiment que la démocratie est menacée.
Je vais vous lire des gens. Pierre Rosanvallon, ce n'est pas un insoumis, je crois. Pierre Rosanvallon, qui dit « Nous sommes en train de traverser la plus grande crise démocratique que la France ait connue depuis la fin de la guerre d'Algérie. » Jean-Jacques Courvois, qui est l'ancien garde des Sceaux et ancien président de la Commission des lois, qui lui-même explique que ce qui est en train de se passer à l'Assemblée en attaquant le droit fondamental d'amendement des députés abaisse l'Assemblée nationale. Ce n'est pas des insoumis qui disent ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que oui, lorsque une majorité dans le pays, jusqu'à 9 Français sur 10, 9 actifs sur 10, disent qu'ils ne veulent pas d'une réforme, l'expriment de toutes les voies démocratiques possibles et que ces voies démocratiques, petit à petit, sont bouchées.
Donc la France,
oui,
est Victor Orban.
Oui, il y a un souci.
Donc la France, c'est la Hongrie de Viktor Orban.
Et je vais vous dire, ça ne pose pas qu'un problème à la France insoumise. Ça pose un problème, y compris aux macronistes. Pourquoi ? Parce que eux-mêmes se sont auto-bloqués dans l'impasse dans laquelle ils ont mis le pays. Ils ont mis le pays dans une impasse. Ils se sont auto-bloqués sur cette question. Mais quand nous disons que la réforme des retraites va empoisonner le quinquennat d'Emmanuel Macron, je le pense réellement.
De la part d'un parti qui a un fonctionnement totalement antidémocratique, totalement opaque, où les militants ne sont jamais consultés, et où vous avez 3 têtes dirigeantes qui décident absolument de tout, c'est assez savoureux de prendre des leçons de démocratie de la part de votre parti.
C'est faux, en fait, c'est faux. Et par ailleurs, je vous indique qu'un mouvement n'est pas tout à fait pareil qu'un pays.
Bah non, effectivement, il peut être antidémocratique.
Mais c'est pas antidémocratique, en fait. Vous assénez des choses comme ça, mais il se trouve que nous avons des groupes d'action qui ont une liberté d'action totale.
Les militants votent pour élire leur président, par exemple, chez vous?
Non.
Les militants votent pour élire leurs représentants, leurs présidents.
Il y a eu des votes pour pouvoir, par espace, avoir une coordination des espaces.
Bon,
voilà, qui est la direction de notre mouvement.
Voilà. Mathilde Panot, mais est-ce que vous n'êtes pas en décalage aussi avec une partie des Français qui pourtant partagent avec vous la même idée, qu'ils sont hostiles à cette réforme des retraites, ils sont hostiles à certaines mesures utilisées par le gouvernement, mais en même temps, on voit qu'il n'y a pas eu de sursaut aujourd'hui dans la mobilisation. Est-ce que les Français, eux, n'ont pas tourné la page en comprenant que cette réforme, elle a été adoptée, mais mise sur la suite, sur 2027? Et est-ce que vous ne risquez pas du coup de perdre cet élan, cette mobilisation, ce mouvement au profit du Rassemblement national qui joue déjà la partition 2027. Et on le voit dans les sondages.
Alors déjà, alors il y a plusieurs choses dans votre question. La première chose sur le Rassemblement national, parce que j'entends souvent que le Rassemblement national tirerait en quelque sorte les marrons chauds d'une mobilisation sur laquelle ils n'ont absolument pas participé. Je rappelle, le Rassemblement national n'a été dans aucune des manifestations. Le Rassemblement national ne s'est pas battu à l'Assemblée, à tel point qu'ils avaient moins d'amendements que Renaissance sur le texte de la réforme des retraites. Et votent avec eux contre l'augmentation du SMIC.
C'est important de dire qu'ils montent dans les sondages.
C'est pas au point d'amendement.
Eh ben, justement, moi j'ai regardé les sondages européens qui montrent que, par exemple, si la NUPES est unie aux élections européennes, c'est bien la NUPES qui arrive en premier. Il se trouve aussi que les seuls qui ont
même
perdu...
Même si elle n'est pas unie, c'est, les mêmes, les seuls... c'est la même chose.
Oui, enfin, ce n'est pas le même symbole, vous comprenez. C'est oui, pas la même chose de dire que le RN arrive en premier et ce n'est pas une question
de
sieste.
Vous êtes crédité à peu près à 26, que vous soyez ensemble ou pas, et effectivement...
Mais c'est pas la... je ne pose pas ça comme question. On pourrait en débattre.
Si vous n'êtes pas ensemble, vous faites plus que si vous êtes unis.
C'est un débat intéressant, mais là, je pense juste que dans les sondages, la NUPES est la première force politique qui arrive avant le Rassemblement national et que par ailleurs, le Rassemblement national sont ceux qui ont perdu un député puisqu'ils étaient 89 et qu'ils sont devenus 88. Donc, il faut quand même revenir à l'épreuve des faits. Deuxième chose, est-ce qu'on est en train de se décaler par rapport aux Français ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que des gens qui sont touchés par leur chair par une réforme des retraites, qui vont devoir bientôt faire 6 mois de plus, pour certains même revenir au travail sur la réforme des retraites, vont en quelque sorte dire « bon, bah, c'est pas grave on oublie ça et puis on continue sur d'autres sujets. »
Mais madame Badeau, Laurent Berger, comment est-ce que vous qualifiez ce que dit Laurent Berger ? C'est quoi ? C'est une sorte de traître à la cause ? Il est pas trop défaitiste ? Alors, quand il dit « le match est en train de se terminer », qu'est-ce qu'il fait, Laurent Berger ?
Binet, quand elle dit « c'est
non, mais, non, mais attendez, vous mais répondez non, pas à ma question. Laurent Berger, qu'est-ce qu'il fait quand il dit ça ?
Eh bien, il dit ce qu'il veut comme responsable syndical.
Non, mais il se trompe.
Ben moi, je pense que oui, la mobilisation va continuer.
Alors, mais sous quelle forme ?
Mais oui, mais c'est.
Les manifs, c'est terminé.
Vous avez raison. Peut-être que ce n'est pas sous la forme de manifestation que, effectivement, le pouvoir continue de ne pas contempler. Mais quand même, posez-vous des questions. Quelle est l'issue démocratique de tout ça ? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens ? Allez voter ? À quoi ça sert d'aller voter ?
Eh ben, ils votent Front National.
Allez, à quoi ça sert d'aller voter quand lorsque vous avez des gens qui pleurent des chaudes larmes sur l'abstention, le pouvoir qui pleure des chaudes larmes sur l'abstention et qui ont, avec des Français qui ont élu une Assemblée nationale qui voulait voter contre la retraite à 64 ans. À quoi ça sert d'aller manifester? Mais c'est quand même ces questions-là qui posent le pouvoir.
Mais le problème, c'est que c'est à vous de trouver une majorité,
C'est une crise de régime et ce que nous portons depuis des années sur la question de la 6e République est une manière de sortir par le haut de cette impasse. Je dis juste un point. Excusez-moi, juste un point. Si par exemple nous avions le référendum d'initiative citoyenne que nous portons dans notre programme depuis des années, que les Gilets jaunes portent, qui permet à la fois de proposer et d'abroger des lois, nous aurions une voie de sortie le haut de la situation.
Mais en fait vous n'avez pas été élu pour présider le pays et donc votre réforme constitutionnelle et votre 6e République.
Oui, et puis Emmanuel Macron a été élu par défaut contre l'extrême droite en disant
je sais
que les Français n'ont pas voté pour
la 6e République, c'est pas le combat d'aujourd'hui, madame Panot.
C'est-à-dire que juste après.
La 6e République, c'est pas pourquoi pas faire une 6e République et vous avez des propositions qui revitaliserait la démocratie selon vous, mais c'est pas maintenant que ça va se décider et donc c'est bien en 2027. Qu'est-ce qu'on fait d'ici là ? C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres sujets sur lesquels les syndicats veulent travailler, l'emploi des seniors, les salaires, l'inflation, enfin il y a d'autres sujets et vous, non, vous voulez uniquement parler de la retraite à 62 ans.
Arrêtez de caricaturer les choses, évidemment que non. Regardez, on était il n'y a pas longtemps avec les salariés de Verbaudet et je salue le fait que ces femmes, après 7 semaines de grève, aient gagné les augmentations de salaire qu'elles demandaient. On sera à côté des salariés de casino qui luttent contre les suppressions de postes. On a toujours tenu nos bouts. Mais juste, nous ne lâcherons pas sur la question des retraites. C'est ça que nous sommes venus dire ce soir.
Et alors, du coup, votre
c'est
plan...
ça que nous continuons.
Mais alors, ce sera quoi votre plan ? C'est-à-dire que si, ce jeudi, il n'y a pas de vote, vous seriez prête à représenter en fait, ce texte lors de votre niche et on va continuer comme ça, avec donc un gouvernement qui balayera toujours avec l'article 40. L'idée, c'est quoi ? C'est d'empoisonner le reste du quinquennat avec ce texte, avec
c'est
cette petite musique ?
C'est lui qui s'est lui-même empoisonné.
Oui, mais vous, quelle est votre stratégie ? On voit bien que là, on est dans une impasse.
Eh bien, oui, et eux-mêmes sont dans une impasse. Vous comprenez que
collectivement, nous sommes dans une impasse.
Oui,
dans ce
mais c'est un problème démocratique. La proposition que nous avons jeudi, c'est aussi une manière de sortir par le haut des choses. Quand vous avez des conflits de légitimité, d'accord, le président de la République a été élu, il avait dit qu'il ferait une réforme des retraites. Passons sur le fait qu'il ait été élu par défaut contre l'extrême droite. Passons sur le fait que les Français n'ont pas donné une majorité à l'Assemblée nationale, à ce gouvernement, et qu'ils sont aujourd'hui minoritaires. Passons sur tout cela. Bon, bah, quand vous avez des conflits de légitimité entre un président qui a dit qu'il ferait ça et une Assemblée nationale qui ne le veut pas et une démocratie sociale qui ne le veut pas, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste le vote. Donc, le vote à l'Assemblée. Après, je ne sais pas, le retour au vote. On proposait le référendum à un moment. Enfin. Mmh. Donc,
une dissolution.
Mais je ne sais pas,
peut-être. Parce que vous n'êtes pas majoritaire non plus. Vous dites le Emmanuel Macron n'a pas une majorité, vous non plus, vous n'avez pas eu. Donc il faudrait faire une coalition avec qui, avec qui vous pourriez diriger.
Enfin, là, il n'y a pas de majorité alternative dans l'Assemblée qui
donc, à part la dissolution,
il n'empêche qu'il y a 51 députés de la NUPES et que nous, même groupe Insoumis, nous avons multiplié par 5 le nombre de nos députés et que nous avons été élus pour à la fois combattre la politique d'Emmanuel Macron et surtout proposer une alternative. Et je vous le dis, nous sommes les partisans de la retraite à 60 ans, de la 6e République, du partage des richesses et nous continuerons à nous battre dessus. Et c'est après tout la démocratie que de proposer un chemin différent au pays.
Mathilde Panot, il y a une autre information importante sur laquelle on voulait vous entendre ce soir, ça concerne le fonds Marianne. Benjamin Duhamel, je vous demandais des trésors de pédagogie pour rappeler à tout le monde l'affaire du fonds Marianne. Je vais résumer, c'est un fonds qui avait été créé juste après l'assassinat de Samuel Paty par Marlène Schiappa, fonds qui permettait de doter un certain nombre d'associations pour aller émettre des messages, comment dire, républicains, pour aller lutter contre les messages anti-républicains, contre le séparatisme notamment en ligne, etc. Il y a un certain nombre d'associations qui ont reçu des subventions très importantes, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros, de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros. Il y a un rapport qui a été rendu ce soir, et un préfet qui démissionne.
Oui, absolument. Christian Gravel, le préfet qui était donc chargé, qui était à la tête d'un organisme chargé de mettre en œuvre cette volonté de Marlène Schiappa, ce fonds Marianne. Mmh. Il démissionne à la suite d'un rapport absolument accablant de l'inspection générale de l'administration. Voilà ce que dit ce rapport. Ce manquement est pour partie imputable à l'association qui n'a pas transmis... Alors, faut peut-être qu'on vous lise juste avant dans l'ordre les trois points notamment et ce qui est reproché au fonds Marianne, à la gestion du fonds Marianne. Le premier point, c'est un appel à projet qui dit ce rapport n'a été ni transparent ni équitable. Deuxième point, ce rapport qui considère que l'utilisation de la subvention n'a pas été conforme, que le secrétaire général n'a pas accompli les diligences nécessaires. Le rapport qui donc explique que ce manquement est pour partie imputable à l'association qui n'a pas transmis dans les délais de la documentation exigée par la convention. On parle d'une association qui a donc reçu des fonds dans le cadre de ce fonds Marianne, mais rajoute aussi le rapport de l'inspection générale de l'administration qu'il procède également de défaillances dans l'organisation du service, d'un défaut de vigilance et d'un traitement privilégié réservé à cette association. Vous le disiez, Maxime, donc le préfet Christian Gravel a choisi de démissionner. Il y a quelques instants, Marlène Schiappa réagissait à BFM TV en expliquant, je cite, « Je salue la parution du rapport qui apporte des réponses claires et sur la subvention versée à cette association dans le cadre du fonds Marianne. Il y est démontré que je ne suis jamais intervenu en faveur de Mohamed Sifaoui, donc un de ceux qui a reçu ces fonds, mais également que rien ne me met en cause. » Personnellement, est-ce que vous êtes satisfaite de cette démission du préfet ou est-ce que vous dites que c'est seulement un lampiste, un fusible qui a sauté et il faut que Marlène Schiappa quitte le gouvernement?
Alors, bon, il y a plusieurs points. D'abord, je vais commencer par le premier que je regrette profondément, c'est que vous avez vu que le Sénat a diligenté une commission d'enquête sur ce fonds Marianne qui s'apparente à un véritable scandale d'État et qu'à l'Assemblée nationale, nous avions demandé de même à Yaël Braun-Pivet d'avoir une commission d'enquête, ce qui me semble normal, et que Yaël Braun-Pivet a refusé que cette commission d'enquête puisse se mettre en place, ce qui, je crois, est extrêmement dommageable, première des choses. Deuxième chose, je le dis, ça me tient très à cœur. Lorsque nous serons au pouvoir, nous n'utiliserons pas ni les fonctionnaires ni les hauts fonctionnaires comme des fusibles. Parce que ce qui est en train de se passer, ça s'appelle un fusible. Et je le dis, il y a une responsabilité politique. Et la responsabilité politique, elle est portée par le ministère et par Mme Schiappa. Et donc, j'invite Mme Schiappa à tirer toutes les conséquences de ce qui est en train de se passer.
Est-ce qu'elle est auditionnée par la commission d'enquête?
Ça veut dire que c'est elle qui devrait démissionner et pas des fonctionnaires ou des hauts fonctionnaires. Parce que très clairement, dans ce qui apparaît, dans ce qui a été pour l'instant révélé médiatiquement et... Malheureusement, nous n'avons pas la commission d'enquête pour poursuivre le travail, mais que la responsabilité politique, elle n'est pas portée par les fonctionnaires ni par les hauts fonctionnaires. Et je pense que c'est important de le rappeler.
Pour vous, il y a une responsabilité personnelle de Marlène Schiappa. Il y a des éléments qui vous permettent, vous, de mettre personnellement en cause Marlène Schiappa.
Il y a les éléments qui sont sortis dans la presse. Je n'en ai pas d'autres puisque la commission d'enquête a été refusée à l'Assemblée nationale. Mais je crois que la responsabilité politique, elle vient du ministère directement et donc de la ministre.
Benjamin.
Au fond, comment dire, Marlène Schiappa, ce qu'elle répond à BFM TV ce soir, elle dit, mais elle se félicite de ce rapport de l'inspection générale de l'administration considère qu'il y est écrit clairement qu'elle n'a pas de responsabilité à porter par rapport à ce qu'il s'est passé, que la façon dont elle s'est comportée n'est pas mise en avant. Si on suit ce rapport de l'inspection générale de l'administration, encore une fois, je reprends la question que vous posez, Maxime, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il faut que cela aille plus loin que la démission de celui qui était en charge de mettre en musique ce fonds Marianne avec visiblement des procédures qui ne se sont pas passées dans les règles de l'art?
Parce que vous pouvez croire qu'un préfet tout seul décide de faire telle ou telle chose, mais moi je ne le crois pas. Voilà. Et que j'aimerais qu'au-delà du rapport de l'inspection, ce qui est très bien de faire ce rapport-là, qu'il puisse y avoir aussi des responsabilités politiques qui puissent être cherchées à quelque chose qui touche de l'argent public qui a été utilisé de manière complètement détournée. Et donc, je trouve qu'il est normal, qu'il est sain dans une démocratie, que ça ne s'arrête pas à des fonctionnaires ou à des hauts fonctionnaires.
C'est lui qui était en charge, en fait, de ce fonds, en tant que préfet. C'est lui qui a mis aussi ce cadre. Il a peiné à se justifier devant les sénateurs qui, eux, ont pu mettre en place une commission d'enquête. Est-ce que ce n'est pas suffisant? De fait, il assume ses responsabilités et il est concrètement pointé du doigt par ce rapport.
C'est suffisant si Mme Schiappa n'est pas à l'origine d'ordre qui aurait été donné.
Vous n'en avez pas la preuve, Mme Panot.
Mais je n'ai pas la preuve, mais c'est pour ça qu'une commission d'enquête est nécessaire. Vous vous rendez compte qu'on ne peut pas juste s'appuyer sur un rapport d'inspection?
Donc vous remettez en cause ce rapport, vous le remettez en cause?
Mais non, c'est pas une question de remettre en cause, c'est que vous comprenez que lorsque vous avez des préfets, les préfets ne sont pas dans une autonomie complète par rapport à ce qu'ils font. Voilà, je pose la question sur cet aspect-là et je dis, et je redis, il y a des responsabilités politiques derrière ce que font des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires, et ce n'est pas aux hauts fonctionnaires et aux fonctionnaires de jouer les fusibles lorsqu'il y a un scandale qui éclate.
Juste, il y a la démission. Est-ce que sinon, vous demandez à Elisabeth Borne, au président de la République, de demander à ce que Mme Schiappa quitte le gouvernement? Est-ce que vous considérez à un moment donné que si elle ne prend pas la responsabilité de s'en aller, l'ordre doit lui être donné par ses supérieurs hiérarchiques que sont la Première ministre et le président de la République?
Écoutez, moi, je pense que déjà, les parlementaires pourraient faire leur travail de commission d'enquête pour essayer de trouver la vérité. Vous savez, dans une commission d'enquête, les gens arrivent, ils doivent jurer sur l'honneur de dire la vérité.
Ils le font, ce sont les sénateurs.
Oui,
il y a une commission d'enquête.
Oui, à chaque fois, ce sont les sénateurs. Je vous rappelle que l'affaire Benalla...
Ils travaillent bien, les sénateurs.
Oui, mais je vous rappelle que l'affaire Benalla, il y avait aussi une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui a été arrêtée par une certaine Madame Yaël Braun-Pivet et que c'est le Sénat qui a dû continuer à faire le boulot. Donc, je ne trouve pas ça normal.
Donc on peut faire confiance aux sénateurs pour révéler la vérité.
Oui, d'accord, mais très bien.
Mais vous dites parce qu'il n'y a pas d'insoumis au Sénat.
Ça serait bien aussi qu'à l'Assemblée nationale, on puisse faire ce travail-là et qu'il y ait une enquête politique qui soit faite sur comment ce scandale politique a pu arriver.
Merci Mathilde Panot.
Merci
beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir en direct dans 22h Max.